France Culture.
Cet homme, c'est Bruno. Il est tatoueur. C'est un homme marquant. Bruno, en ce moment, vous êtes en train de reproduire un animal sur le bras de ce jeune homme.
Oui.
Est-ce qu'on vous demande souvent des animaux ?
Oui, les animaux sont assez fréquents. La panthère noire, l'aigle, le lion, le tigre sont des animaux fréquents.
Mais vous pouvez tout faire.
Ah, je tatoue tout.
Tatouage, des mondes sur la peau. Une série documentaire de Jérôme Sandlars, réalisée par David Jacuboviez. Ça vous est déjà arrivé de refuser un tatouage à quelqu'un ?
Alors, en 33 ans de carrière, ça m'est arrivé peut-être deux ou trois fois, pas plus. C'est extrêmement rare.
Oui, plusieurs fois.
Ça peut être un marteau, une faucille ou une croix gammée.
Je me souviens d'un jeune homme qui avait à peine 18 ans et qui voulait une rose noire sur le cou. Et moi, je fais partie de l'ancienne génération de tatoueurs qui ne veulent pas faire des tatouages sur des zones visibles tout de suite.
Bah, c'est des zones qu'on ne peut pas cacher, à moins de porter une cagoule ou des gants. Je veux pas avoir cette responsabilité-là, pour le coup.
J'ai aussi souvenir d'une dame qui voulait une larme pleine au coin de l'œil. Chez les gangs américains, la larme noire, ça veut dire qu'on a tué quelqu'un. Et moi, j'ai dit non, on peut pas vous faire ça.
Qu'on puisse dénaturer certains modèles, par exemple comme le Christ, je refuse qu'on lui mette une canette de bière dans la main. Ou je veux dire, on me l'a demandé, ça, c'est pour ça que je prends cet exemple-là.
C'est quoi le tatouage le plus fou que vous ayez réalisé ?
Ah oui, autour de l'anus d'un monsieur.
Et donc ?
Eh ben, je lui ai fait. Oh, i. Ça fait mal.
Épisode 1, art ou artisanat.
Alors, par ici, c'est donc la pièce qui est réservée au tatouage. C'est la pièce la plus cosy. Alors, fais attention, derrière toi, il y a le poil. Ça, c'était vraiment un de mes rêves, de pouvoir tatouer avec le feu qui crépite à côté. Et du coup, offrir vraiment une atmosphère très rassurante, comme si on était à la maison.
Séance de tatouage en compagnie de Léa Le Falin, dite Le Faucon, et Camille, dans une ancienne longère transformée en atelier.
Alors, du coup, mets-toi donc deux profils pour que tu puisses bien voir dans le miroir. Et du coup, ce que tu avais dans l'idée, c'est ça,
oui.
Le long de ton mollet,
exactement.
Au-dessus de...
De la cheville,
de la cheville.
Ça partait de la cheville.
Ouais. Donc, le motif qu'on tatoue aujourd'hui, c'est une digitale, donc une grande fleur sauvage.
Qui est géniale parce que du coup elle est à la fois mortelle, belle et elle peut relancer des cœurs.
Oui, ah oui. Je pense que par ici c'est pas mal. En fait, j'ai tendance à ne pas le mettre trop bas pour dégager justement ta cheville, mais dans tous les cas, c'est toi qui vas porter ce tatouage toute ta vie, donc c'est surtout toi qui dois me dire ce que tu en penses.
Bah, moi je veux pas le mettre trop loin de la terre.
Ouais.
J'avoue.
Oui, oui, oui.
Mais ça me va bien aussi que ça dépasse pas d'un jean ou d'un pantalon.
Ouais.
Si j'ai des chaussures ouvertes par exemple.
Ouais.
C'est bien, c'est mon petit secret à moi.
On part là-dessus ?
Oui.
Super. Du coup, pendant que j'imprime le stencil, tu vas pouvoir t'installer sur le canapé. Et tu vas voir, il y a le contrat que tu vas devoir signer. Et donc oui, le titre de ce contrat, c'est « Un contrat de tatouage par effraction cutanée ». Et c'est le terme juridique.
D'accord.
Qui fait un peu peur, mais
oui, je sais ce que c'est qu'un tatouage.
Oui. C'est pas ton premier tatouage.
Non, c'est pas mon premier tatouage, c'est mon troisième.
Oui, mais je pense que c'est justement ce terme juridique, il a été choisi pour mettre un petit peu d'emphase quand même sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ouais. C'est pas anodin, un tatouage, ça va passer les barrières de ta peau. C'est ça l'effraction cutanée. Ce qui engage encore une fois beaucoup de responsabilités de ma part.
Qu'est-ce que vous venez de signer alors ?
J'ai sous-signé Matelot Camille. Puis je déclare que je suis majeure, que je n'ai pas pris de drogue.
ne pas être sous l'emprise de substances illicites ou d'alcool de façon générale, de tout produit pouvant altérer ma capacité de jugement, ne pas être à jeun, et n'avoir aucun doute quant à mon aptitude sanitaire de l'acte de tatouage, allergie, grossesse, etc.
De son côté, Léa Le Falin s'engage à effectuer l'acte de tatouage par effraction cutanée conformément à la législation faite à Saint-Nazaire en double exemplaire, et on signe toutes les deux. Très bien, bon ben ça c'est fait. Du coup, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Hop.
Quand on rentrait dans un salon de tatouage dans les années, jusqu'au milieu des années 90,
Michael de Poissy, tatoueur, spécialiste du style vitrail.
Derrière le comptoir, on avait affaire à un personnage charismatique, toujours. On ne savait pas si on allait se ressortir avec un tatouage ou avec un coquard. Et on rentrait dans une ambiance, on rentrait dans un univers qui était très particulier, et les gens avaient très peur d'ailleurs de rentrer dans les salons de tatouage à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein. Le tatouage, il est rentré dans toutes les familles, hein, partout en France. Donc quand on va chez le tatoueur, bah, c'est comme si on rentrait chez le coiffeur ou si on allait se faire une manicure.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers au départ ?
Moi, j'étais un petit délinquant. Je fréquentais des gens qui étaient déjà beaucoup tatoués, ce qui n'était pas du tout commun à l'époque. Si quelqu'un avait un tout petit tatouage dans le cou, on regardait que ça, on ne voyait que ça. On ne le regardait pas dans les yeux, on voyait son tatouage, on hallucinait. C'était quelque chose d'extrêmement choquant. Et ça m'a tout de suite plu, moi bon, qui étais voilà, totalement déscolarisé. J'avais pas forcément un avenir très glorieux qui s'annonçait. Et j'étais pas trop mauvais en dessin, je commençais à dessiner un petit peu pour mes amis et trouver un tatoueur c'était extrêmement compliqué, on était à Poissy et comme il y avait encore un phénomène de bande au début des années 90, on va dire que chaque bande avait à peu près son tatoueur. On sait que les punks allaient plutôt chez Christian de Belleville, les skinheads allaient plutôt chez Marcel rue Legendre, les gens qui savaient pas trop allaient plutôt chez Bruno de Pigalle qui faisait à peu près tout. Donc pour la région parisienne, c'était quand même assez limité. Et sinon, il fallait faire 200, 300, 400 kilomètres pour aller chez un tatoueur. Et un jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter du matériel, ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à m'entraîner sur mes amis qui étaient aussi bien contents, pas très regardants non plus. Et comme on fonctionnait avec des catalogues, il nous fallait une petite centaine de modèles à l'époque pour pouvoir commencer à exercer.
Vous aviez déjà une machine électrique à ce moment-là ?
Alors moi, j'ai commencé à la main. Mais je suis très très vite passé à la machine électrique et d'ailleurs moi je suis vraiment de la génération de la transition entre les tatoueurs qui utilisaient des gants et les tatoueurs qui n'en utilisaient pas puisque moi quand j'ai commencé on était encore dans la grosse période du sida et c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à s'inquiéter de l'hygiène. Mais moi je fais partie de cette bascule générationnelle où d'un seul coup on met des gants.
Et alors pourquoi il y a cette tradition de prendre un pseudo un peu comme dans le rap dans le tatouage ?
À l'époque, comme on était très peu, bah, c'était Franck de Lyon, Franck du Havre, Manu de Chalon. Il y avait le prénom et le nom de la ville. C'est comme ça qu'on se reconnaissait. Et moi, j'étais Michael de Poissy, j'étais à Poissy. Si j'avais été dans une autre ville, Michael de Poissy, ça passe bien d'ailleurs. J'ai de la chance, hein. J'aurais pu être Michael de Potocombo, ça aurait été déjà beaucoup moins sympa. Mais quand les gens m'écrivent aujourd'hui, ils me disent « Bonjour, monsieur de Poissy, j'aimerais savoir où se trouve votre atelier. » Je leur dis « Je vais à Poissy. »
Vous vous souvenez du premier tatouage que vous êtes fait faire c'était quoi ?
Le premier tatouage que je me suis fait faire, alors c'était pas très glorieux, hein, je rentre chez Marcel Ayot, rue Legendre, qui était vraiment un personnage atypique, charismatique, un vrai titi parisien avec cette espèce de gouaille qui tatouait la clope au bec, qui avait que le PMU à la bouche, qui était, enfin vraiment c'était un titi parigot. Et quand je suis rentré, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Il voyait un gamin rentrer dans son shop. Donc je lui ai dit que je voulais me faire tatouer. Il m'a dit « T'as 10 minutes pour choisir un modèle. » Donc j'ai regardé autour de moi, sur les murs, et j'ai dit « Je voudrais bien me faire ça. » Donc c'était un rat posé sur une tête de mort que j'ai toujours sur l'épaule, bien sûr. Et je suis ressorti de là une heure après avec un capital virilité totalement valorisé, voilà, du haut de mes 52 kilos et avec mes épaules de serpent, voilà.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 17 ans, là, à ce moment-là.
Sophie Dunoyer, vous avez 54 ans, vous êtes ancienne graphiste. Et votre surnom de tatoueuse, c'est la marquise de Salem.
Eh oui. En fait, je travaillais dans une boutique où il n'y avait que des hommes. Et c'était un peu, comme on dit, la princesse, quoi. Donc, c'était la marquise. Et plutôt que de le garder comme quelque chose de péjoratif, je me suis réappropriée, en fait. Voilà. Et comme j'aime faire des choses un peu liées avec tout ce qui peut être ésotérique, un peu magique, voilà, j'ai associé de Salem qui, tout de suite, parle par rapport à ça. Donc, là, et puis, ça sonnait bien, la marquise de Salem. Voilà.
Donc, Salem, c'est...
Eh ben, c'est une ville aux États-Unis où il y a eu des sorcières.
Voilà. Les premiers tatouages que vous avez vus sur d'autres corps et qui vous ont donné envie.
Oh, ça remonte à loin. Les premiers, c'est quand j'étais en Algérie pendant mon enfance.
Ah oui.
En Kabylie. Quand j'avais 3 ans, 4 ans, je suis rentrée en France, j'avais 7 ans. J'ai vu des femmes tatouées sur le visage, sur les mains. Et ça me fascinait, quoi, en fait. Parce que c'est pour ça que j'ai des tatouages berbères sur le visage. Ils ne sont pas traditionnels purs, mais j'ai retransformé des tatouages qui existaient et c'est des protections. Voilà. Ça protège du mauvais œil, entre autres. Et puis c'est aussi une façon de porter une culture qui m'a marquée, que je trouve très belle.
Et à laquelle vous appartenez ?
Pas du tout. C'était une boucle pour moi. Me tatouer le visage, c'était une manière de dire je m'engage dans le tatouage complètement. Alors, le tout premier, je l'ai fait à 18 ans. J'étais très pressée de le faire parce que j'ai toujours voulu des tatouages. Je me faisais des dessins au stylo bille quand j'étais plus petite. Ouais. Donc ça m'a toujours... Ouais. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça a toujours été là. Et j'ai fait un tatouage sur l'omoplate par rapport à une histoire peine de cœur. Voilà. J'avais fait le dessin et je suis allée à l'époque chez Bruno à Pigalle parce que je ne connaissais pas d'autres tatoueurs. Et j'ai montré mon dessin, il m'a dit non, ça on ne peut pas le tatouer, ça ne va pas bien vieillir. Donc je suis repartie avec mon dessin. J'ai redessiné, je suis revenue, j'en voulais, et je l'ai fait, j'étais très fière de tenir. Et juste avant, il y avait un monsieur, avant moi, qui pleurait toutes les larmes de son corps, qui se faisait tatouer le poignet, alors du coup, moi, je pleurais pas, j'étais contente. J'ai vécu avec ce tatouage qui a pas très bien vieilli pendant longtemps.
Qui représentait quoi, alors ?
Un oiseau, une tête d'oiseau, enfin, je prenne mon envol, voilà. C'est juste quelque chose d'un peu... Voilà, un peu symbolique. Et puis ensuite, je suis passée au dos complet. Là, je fais des poissons. Je les avais rêvés, les poissons. Je voulais des poissons qui nageaient sur mon dos et c'était vraiment être comme un poisson dans l'eau. J'ai fait des photos de mon dos et avec un calque, j'avais adapté. J'étais déjà dans la démarche tatouage un peu. Ouais. Mais après, bon, on a revu 2-3 petits trucs, mais... Et, c'était chouette. Moi, j'ai senti les odeurs... Des désinfectants, l'odeur, parce qu'il y a une odeur particulière dans une boutique de tatouage. Les bruits des machines, c'était pas les machines qu'il y a aujourd'hui, c'était des machines qui faisaient beaucoup plus de bruit, mais il y a un bruit régulier qui est presque apaisant, je trouve. Enfin, j'ai adoré. À l'époque, j'étais au chômage, j'avais arrêté d'être graphiste. J'avais envie de revenir sur quelque chose de plus manuel. J'en avais marre des ordinateurs. Et c'est devenu une évidence, quoi.
Donc vous dites, on vous surnommait un peu la princesse.
Oui, ou la marquise, enfin voilà, ouais.
C'était comment ce milieu du tatouage quand vous avez commencé il y a une vingtaine d'années ?
Macho, mais en même temps, tous les milieux, enfin en tant que femme, dans tous les milieux, souvent, enfin dans le graphisme, je l'ai rencontré aussi. Et, disons que là, au moins, c'était plus clair. C'était affiché.
Et ça passait par quoi, alors ?
Je me souviens d'un collègue, j'étais jeune apprentie et en train de faire les dessins. Je faisais à l'époque, je faisais même pas les tatouages, je faisais juste les dessins. D'un collègue avec des amis à lui qui sont rentrés dans la boutique et qui a dit « c'est la nouvelle Padawan, droit de cuissage pour tout le monde ». Ça m'a bien énervée. Je me suis dit « de toute façon, si je lui fous une claque, il me la rend ». Donc non, on va rester l'apprentie à sa place, quoi. Quand je travaillais avec beaucoup de mecs très machos qui commençaient à m'embêter, je mettais Gay Boys in Bondage de Punish Yourself très fort. Ils aimaient pas du tout. Et moi, j'étais mort de rire à chaque fois. C'était très rigolo. Voilà. Gay Boys in Bondage. We're all gay boys in Bondage. Ça a duré un an et demi, 2 ans, où j'ai fait les dessins, je faisais le ménage. Voilà, l'apprentissage de base, quoi. Mais je suis fière de ça, hein, en fait, en même temps, hein, d'avoir traversé ça, d'avoir fait un apprentissage classique, traditionnel. J'ai vraiment beaucoup appris à ce moment-là, parce qu'on apprend l'hygiène, on apprend l'accueil des clients, on apprend toute la problématique autour des dessins. Faire un dessin qui se tatoue, c'est pas faire un dessin sur une feuille de papier. Pas faire des lignes qui soient trop serrées, parce que les lignes tatouées s'épaississent un peu et qu'après on voit plus rien. Il y a des codes à respecter, qu'il faut connaître. Des codes de motifs qui viennent de la rue, parfois. La fameuse toile d'araignée sur le coude qu'on associe avec quelque chose qui est des skinheads, en fait, c'est, au départ, c'est le mec qui reste au comptoir et qui bouge plus du comptoir et qui passe son temps à boire. Et en fait, la toile d'araignée a le temps de pousser. Tout ça, c'est des histoires liées au symbole des tatouages qu'on apprend, en fait, au fur et à mesure.
Tandis qu'en Europe, les femmes se peignent en rouge les joues, celles de Tahiti se peignent d'un bleu foncé les reins et les cuisses. C'est une parure et en même temps une marque de distinction.
Voyage autour du monde de Louis-Antoine de Bougainville, raconté par lui-même.
Les hommes sont soumis à la même mode.
1766-1769.
Je ne sais comment ils s'impriment ces traits ineffaçables. Je pense que c'est en piquant la peau et y versant le suc de certaines herbes, ainsi que je l'ai vu pratiquer aux indigènes du Canada. Il est à remarquer que de tout temps, on a trouvé cette peinture à la mode chez les peuples voisins encore de l'état de nature. Le savant et ingénieux auteur des recherches philosophiques sur les Américains donne pour cause à cet usage général le besoin où on est dans les pays incultes de se garantir ainsi de la piqûre des insectes caustiques qui s'y multiplient au-delà de l'imagination. Cette cause n'existe point à Tahiti, puisqu'on y est exempt de ces insectes insupportables. L'usage de se peindre y est donc une mode, comme à Paris.
Vous qui avez publié un ouvrage qui est consacré à l'histoire du tatouage en France, de 1770 à 1960, Michel de Poissy, est-ce que vous diriez qu'il existe un style purement français ?
Bah, définir le style français, d'abord, c'est connaître l'histoire de France, puisque finalement, le tatouage a suivi l'histoire de France et a suivi ses personnages dans leurs aventures. Alors, on va parler du XVIIe siècle avec la découverte du Canada ou des navigateurs qui vont se confronter à des populations qui sont déjà fortement tatouées et qui vont prendre ces étranges coutumes. Mais moi, ce qui m'intéressait dans mon ouvrage, c'était pas tant les premiers Français qui se faisaient tatouer, c'était plutôt les Français qui ramenaient le tatouage en France, qui ramenaient cette coutume exotique du tatouage en France. Et là, on n'est plus à l'époque de Cartier, de la découverte du Canada, on est plutôt à l'époque de Bougainville, de toute cette génération des navigateurs comme Cook, qui vont plutôt découvrir l'Océanie. On va tomber sur des populations comme les Marquises ou toute la Polynésie, avec des gens qui sont fortement tatoués. Et là, on a des marins qui vont se faire tatouer. Pour ce côté exotique, c'est à partir de là que démarre véritablement le tatouage, on va dire, carte postale, le tatouage un peu glorieux aussi, qui va montrer qu'on a voyagé, qu'on a remporté une bataille, qu'on a... Et ce tatouage va revenir en France avec toute une génération de jeunes tatoueurs à bord des bateaux, puisqu'il y a une telle demande dans ces îles que les tatoueurs du cru vont former des marins au tatouage, et ces premiers matelots français vont commencer à devenir tatoueur, et en rentrant en France, et ben, quand ils quittent la marine, ils vont rester tatoueurs.
Donc, là, moi, j'ai un thermocopieur qui va venir chauffer, en fait, les zones du dessin qui sont remplies, qui sont noires, pour pouvoir, du coup, imprimer mon motif sur ma feuille de carbone.
Vous, au départ, Léa Le Faucon, vous êtes graphiste, c'est
oui,
ça?
Oui, j'ai travaillé pendant 5 ans avant de me dédier au tatouage dans la publicité. C'était un métier que j'aimais pas. Du coup, il a fallu que je gamberge un petit peu pour trouver une autre voie. Et du coup, je suis tatoueuse aujourd'hui depuis 10 ans.
Et vos premiers rêves de tatouage, ça a été quoi, Léa Le Faucon ?
Alors, c'était à 15 ans. Je voulais absolument un dragon dans mon dos. Et j'ai supplié mon père. Et heureusement, il m'a dit « Non, Léa, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux, mais pas avant. » Et merci, papa, de m'avoir refusé cet énorme dragon dans le dos, parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis pas sûre que je serais vraiment ravie d'avoir ça dans mon dos. Et j'ai attendu même 28 ans avant de me faire tatouer mon premier tatouage. Et en fait, c'était au moment où j'apprenais à tatouer.
C'était quoi alors ce tatouage ?
C'est pas un énorme dragon, mais c'est un énorme loup sur mes côtes. On a quand même un petit peu l'essence de la bête un peu sauvage et très menaçante.
Et là, du coup, on touche du doigt, Léa, votre univers, parce que là, on est face à plusieurs illustrations. Et on voit que c'est un univers qui est extrêmement floral, animalier, fantastique. J'ai envie de dire,
oui.
Aussi, parce qu'il y a des espèces de femmes chimères.
Des chimères, ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dessiner, mélanger les corps humains et non humains, même parfois mélanger les corps humains avec les végétaux ou les insectes. Je pense que ça fait écho aussi à mes convictions écoféministes. Par exemple, là-bas, on a la bourrache, la femme bourrache. Donc la bourrache, c'est une plante qui est très poilue. Du coup, voilà, c'était un moyen aussi de représenter une femme qui a des poils vraiment partout sur le corps, même sur le visage.
Assumez vos poils, c'est ça ?
Bah oui, ça oui, ce serait déjà pas mal. Et puis, pas que les poils, les formes, les couleurs de peau, toutes les imperfections qu'il peut y avoir... Tout ça, justement, est dans la nature. On peut l'observer sur des animaux, des plantes. Du coup, pourquoi pas les accepter aussi sur nous ? On parle souvent de réensauvagement de la nature. Ce serait pas mal de réensauvager nos corps aussi. Et nos manières de nous exprimer. Et pour moi, c'est un tout. Et vu qu'un tatouage, c'est pas... juste un accessoire de mode, une paire de pompes ou un sac à main, c'est quelque chose qu'on va garder à vie. Donc si ça peut refléter aussi ce qu'on pense, ce pourquoi on lutte, c'est pas mal. Alors, ça, c'est prêt. Donc là, je nettoie bien toute la zone qu'on va tatouer.
Je me suis épilée pour la première fois depuis 5 ans.
Ah, bah super, merci. Merci d'avoir fait ça pour moi, ça me touche énormément. Non, bah, si tu ne l'avais pas fait, j'aurais simplement rasé la zone qui allait tatouer. Donc là, je sèche, hop, la zone. Hop, parce qu'on va du coup regarder pour le placement. Avec le stencil. Donc là, pour cette étape-là, on prend vraiment le temps. Si le placement te convient pas, on efface, on recommence. D'accord. Et on le fait autant de fois que nécessaire.
Merci.
J'insiste là-dessus parce que je sais que moi-même, j'ai été tatouée. Et souvent, on peut ne pas oser dire que « Ah, mais en fait, non, j'aurais aimé qu'il soit un centimètre ou même un millimètre plus à droite ou plus à gauche ou en haut, en bas. » Et souvent, on se dit « Non, je vais pas l'embêter. » Alors que, si, il faut vraiment, vraiment pas hésiter. C'est vous qui avez le dernier mot, vraiment, vu que c'est vous qui repartez avec ce motif tatoué pour la vie sur votre corps.
Ça me parle tout à fait parce que mon premier tatouage a été fait dans une relation où j'étais sous emprise, donc c'est un tatouage que j'ai répété 2 jours après. Et du coup, c'est le premier tatouage que je fais vraiment, du coup, qui n'a aucun lien avec cette relation-là.
Okay.
Parce que le second, c'était justement pour changer le premier.
Ok, bon, là, c'est un tatouage pour toi et tu es aux commandes vraiment de tout.
D'accord. Ouais, c'est bien. J'aime bien l'alignement de la cheville.
Je peux vous poser une petite question, Camille? Vous avez dit « je regrette mon premier tatouage ».
Oui.
Je l'ai fait sous emprise.
En fait, j'étais dans une relation où il y avait de l'emprise et de la violence. Et j'avais ce projet de tatouage en lien avec des fleurs de cerisier. Et du coup, comme il y avait de la dépendance, la personne qui était avec moi était ma référence. Et ben du coup, bah, c'est elle qui m'a apporté aussi du coup le tatoueur derrière, qui ne s'était pas du tout inspiré de la forme de la fleur que je voulais, moi.
En fait, le tatoueur n'a absolument pas respecté tes envies.
Non, parce que le tatoueur, je pense qu'il était vraiment beaucoup plus en connivence avec mon ex-conjoint qu'avec moi-même.
Et voilà. Il est devenu quoi, ce tatouage, alors?
Ah bah, il est là.
Je vais vous le montrer.
Je vais le montrer. Wow. Je vois,
il est derrière et il est conséquent.
Ah oui. Mm-hmm. Oui, c'est pas un petit tatouage.
C'est pas un petit tatouage.
C'est un tatouage qui va donc de tes deux omoplates jusqu'à ton épaule droite.
Ouais. Et alors, autour de ces fleurs, vous avez fait inscrire donc du lettering, des bouts de phrases.
En fait, du coup, ça, c'est quelque chose qui a été rajouté.
Mon corps, ma vie, mes choix.
Ces mots pour dire c'est mon tatouage et c'est pas toi qui es sur mon corps.
C'est bon, on est parti. Alors tu vas t'allonger, je pense. Tu vas te mettre sur le côté.
Comme ça?
Ouais,
c'est pour que je puisse reposer aussi ma jambe.
Oui. Et si tu veux que ce soit plus confortable, j'ai un petit coussin, hop, que je recouvre de draps d'examen. Hop. Et que je pense que ce sera plus agréable. Hop là.
Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous faire une place dans cet univers qu'on dit très masculin?
En fait, ce qui est difficile quand on est une femme et qu'on s'intéresse au tatouage, c'est surtout de se sentir légitime. Parce qu'effectivement, l'histoire du tatouage, en tout cas en France, elle est très masculine. Il y a vraiment un cliché qui est très persistant sur l'image du tatoueur. De ce personnage un peu bad boy, sur-tatoué, vraiment de la tête aux mains. Et forcément, quand j'ai commencé à approcher certains salons de tatouage, on me regardait un peu de travers, parce que j'ai pas la gueule de l'emploi. Alors, je pense que là, depuis 10 ans, ça a bien évolué, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se sentent légitimes à s'intéresser à ce métier et à l'exercer.
Mais du coup, comment vous êtes formée, vous? Parce qu'en général, c'est un métier qui se transmet justement sous forme un peu de compagnonnage, où on est pris sous l'aile d'un tatoueur qui a d'expérience. On commence par faire des petits boulots, le ménage.
C'est pas du tout ce que j'ai fait.
Alors?
En fait, moi, la première personne à qui j'ai parlé de mon projet, c'était une ancienne camarade de classe avec qui j'avais fait l'école Estienne à Paris, qui est une école d'art appliqué, qui, elle, revenait justement d'un an d'apprentissage. Qui s'était très mal passée dans un salon de tatouage assez connu. En fait, elle s'est retrouvée à être la larbin du shop et à se faire harceler aussi, parce que sinon, c'est pas drôle. Moi, c'était pas quelque chose que je voulais. J'avais déjà 28 ans. J'avais pas envie, en plus, de passer une année sans revenu, parce que le statut... du tatoueur, de la tatoueuse, c'est pas le statut d'artisan. Donc il n'y a pas vraiment de contrat possible. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'abus pendant ces apprentissages. Parce que c'est encadré par rien du tout. Donc j'ai décidé d'essayer de trouver les infos ailleurs. Auprès de cette camarade, justement, qui revenait de son année d'apprentissage, elle a pu me donner tous les premiers conseils en termes de matériel, par exemple, ou me fournir. Et elle m'a fait tester sa machine, qui était une machine à bobine, sur une orange. Et au bout d'un an, j'ai tatoué mes premiers clients-clientes. Après avoir tatouer des pamplemousses en veux-tu, en voilà.
Après les oranges.
Oui, le pamplemousse, c'est mieux qu'une orange, puisque c'est plus grand. Et surtout, c'est beaucoup mieux que les peaux synthétiques, parce que les peaux synthétiques, on a tendance à les mettre à plat sur une table, alors que le pamplemousse, lui, il est rond. Et en fait, ça va nous apprendre surtout à dessiner sur des choses qui ne sont pas plates, qui sont en volume. Mais c'est sûr que le tatouage, pour apprendre, il faut le ressentir. Donc, c'est en tatouant qu'on apprend, quoi.
Et comment vous jaugez la bonne profondeur de l'aiguille? Comment vous dites, là, c'est bon, je suis au bon endroit?
En fait, on ne va jamais à plus de 2 mm sous la peau. Donc, on effleure. C'est vraiment quelque chose de très superficiel. Et ça, la bonne profondeur, elle s'adapte à tous les types de peau. Parce qu'il n'y a pas une peau qui se ressemble. Donc ça aussi, c'est qu'on doit à chaque fois s'adapter à un nouveau support. Et vu qu'on utilise nos deux mains, il y a une main qui tend la peau et l'autre qui tient la machine et qui tatoue. Et la main qui tend la peau, ressent des vibrations. Et il y a certaines vibrations où on sent que là, on est pile poil à la bonne profondeur. De bruit, mais c'est plus un ronronnement qu'autre chose. Donc, j'ai la machine dans ma main droite et un petit bout de sopalin dans ma main gauche, parce que dès que je vais tracer une ligne, je vais venir essuyer le surplus d'encre pour voir si ma ligne est bien nette. Camille, tu es prête? Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer par une toute petite ligne. Et donc, c'est dans le derme qu'on tatoue. Si on est dans l'épiderme, le tatouage ne va pas rester. Après cicatrisation, il va s'effacer. Et si on est dans l'hypoderme, c'est ça qui fait des tatouages baveux. C'est parce que dans l'hypoderme, il y a des cellules graisseuses. Et en fait, c'est ça qui rend un peu flou certains tatouages. Okay. Ça va?
Oui.
Ça fait pas trop mal?
Ça fait mal, mais c'est normal.
Michel de Poissy, alors là, on est chez vous et c'est presque un petit musée du tatouage. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques objets comme ça qui retraceraient l'histoire du tatouage à travers sa technique?
Alors la technique, elle a un peu évolué, on va dire, au 18e siècle. C'est-à-dire que les marins qui vont revenir, ils vont pas tatouer forcément avec des écailles de tortue ou des épines de cactus ou des choses comme ça, de ce qu'ils vont trouver finalement dans les îles qu'ils vont visiter, mais ils vont se servir d'aiguilles, véritablement d'aiguilles. Donc la nomenclature change et les techniques vont changer doucement. Alors là, on a une canne à système de Saint-Malo qui date de 1850. Donc cette canne à système, elle a plusieurs compartiments. Donc le premier compartiment, c'est là où on mettait l'encre. Donc là, je la dévisse. Donc là, vous avez un petit réservoir d'encre qu'on va poser sur la table. Et on a un deuxième compartiment où sont logées les aiguilles. Là, en l'occurrence, ce sont des aiguilles de porc-épic, mais on avait des aiguilles à peu près de tout. Donc ces aiguilles, je pense qu'elles pouvaient quand même durer plusieurs années, hein, en tatouer. Alors le problème de ces tatoueurs, c'était quand même les normes d'hygiène qui étaient totalement hallucinantes. On crachait dans ces encres afin de les diluer. Donc c'est là qu'on avait des syphilitiques un petit peu dans tous les ports de France. Et ils étaient quand même soucieux de désinfecter leurs aiguilles, donc ils urinaient sur leurs aiguilles pour les désinfecter, donc on était quand même au summum de ce qui se faisait en termes d'hygiène. Ces tatoueurs vont commencer à rentrer dans les terres avec des cannes à système, comme ça, donc on va les appeler les piqueurs publics. C'est pas encore des tatoueurs, hein, le mot tatouage est quand même assez nouveau encore, hein, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est rentré dans le dictionnaire de l'Académie. Et les tatoueurs vont avoir, il va y avoir deux écoles. Il va y avoir l'école où il y a déjà des catalogues, il y a déjà des modèles. Et l'école aussi avec des tatoueurs qui, eux, vont se faire tatouer l'intégralité des modèles sur eux. Et finalement, qui vont se mettre torse nu devant les gens. Et on va dire, je veux celui-là, 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 celui-là.
Qui sont des albums vivants, presque.
C'est tout à fait ça, voilà. C'est des hommes illustrés et qui vont faire ça. Ce ce qu'on peut dire sur l'outillage de la profession de tatoueur, c'est qu'après la canne à système, on va commencer à avoir déjà un petit nécessaire à tatouage. Alors ça pouvait être dans une boîte, hein. J'ai une petite boîte qui a vraiment un nécessaire à tatouage, où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à tatouer. Des aiguilles rattachées à une petite tige métallique ou en bois, et puis un petit réservoir d'encre où on faisait de l'encre soit avec de l'encre de Chine, ce qui était quand même un gage de qualité, soit du noir de fumée, ce qu'on faisait en prison, c'est-à-dire qu'on crame un objet, on récupère l'espèce de suie qui va être au-dessus d'une assiette, on va mélanger ça avec de l'eau, et on va tatouer avec ça. Mais toutes les techniques étaient bonnes pour faire de l'encre. Moi-même, j'ai recouvert des tatouages de détenus qui s'étaient fait tatouer dans les années 50, 60, et je m'étonnais de voir déjà du bleu et du rouge. Alors le rouge, ça a toujours existé dans le tatouage, parce que c'était la brique pilée dans les prisons qui mettait sa dominante rouge dans le tatouage. Mais j'ai connu des gens en prison qui ont pris par exemple du dentifrice bleu-blanc-rouge, qui séparaient le bleu du rouge et qui se tatouaient dentifrice. Mais on pouvait tatouer avec du marc de café, on pouvait tatouer absolument avec tout.
Là, on n'a pas encore l'électricité. À quel moment elle arrive ?
Bah, la machine électrique, elle arrive à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vraiment la dernière décennie. Elle arrive partout en Europe, sauf dans les pays latins, c'est-à-dire Espagne, Portugal, Italie, France. La machine met très longtemps à arriver. Le premier, c'est Acero en France. On est dans les années 20, donc on est déjà 20-25 ans après la création de la machine électrique. Et après Acero, on a très peu d'exemples de machines électriques en France. Il faudra attendre Bruno en 1960, vraiment, pour avoir des machines électriques. Là, vous en avez une qui a été faite à base de bouts d'essuie-glace de voiture, de DS. Donc en fait, c'était le royaume de la débrouille, hein, le tatouage. On essayait de faire ce qu'on pouvait pour fabriquer une machine. Il fallait des bobines, mais vous voyez là, ça c'est une sonnette du début du XXe siècle. C'est une machine à tatouer, finalement. Ce sont deux bobines. Et le son qu'on entend quand ça sonne, c'est exactement le même rythme qu'une machine à tatouer. C'est l'ancêtre de la machine à tatouer, c'est la sonnette.
On la doit à O'Reilly, c'est ça ?
C'est ça, ouais. O'Reilly qui va faire cette machine à tatouer et qui va la breveter, alors que ce serait plus Edison, hein, pour la paternité, mais en tous les cas, mais très très longtemps avant d'arriver en France et dans les pays latins.
Et aujourd'hui, on est passé au pen.
On est passé au pen, voilà. Bon, ça manque un peu de charme, il n'y a plus tellement de bruit. Quand on rentre dans une convention de tatouage, on n'a plus ce bourdonnement de la machine à tatouer maintenant. Mais bon, c'est il faut vivre avec son temps et c'est quand même très agréable de tatouer aussi sans câble électrique, sans pédale au sol, sans toutes ces choses qui étaient assez contraignantes et qui demandaient quand même beaucoup de réglages.
Sur la foi de cet article, j'avais l'intention de vous emmener à Pigalle. Non pas, comme vous pourriez le penser ingénument, pour y faire la tournée des cabarets, mais pour vous faire connaître un personnage unique en son genre, le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal, mettant le tatouage à la portée de tous.
Portrait de Bruno Cusicoli, émission Entre les lignes, archive ORTF, 1964.
J'ai vu des tatoueurs qui étaient vraiment des sadiques. En ce sens, ils étaient bestiales, brutales, c'était tout. Mais moi, je m'efforce d'amener entre le tatoué et moi un terrain d'entente, un climat, disons pas affectueux, mais enfin très amical, voyez-vous.
Est-ce qu'on peut juste préciser qui est Bruno de Pigalle, Michel de Poissy, en deux mots ?
Bruno de Pigalle, c'est un petit jeune de 25 ans qui... c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il a 88 ans, donc il est plus si jeune. Hein. Mais c'est un petit jeune de 25 ans qui est primeur, hein, qui vend des pommes de terre et qui part à Amsterdam pour justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut cultiver la carotte, la pomme de terre et tout ça. Et il fait la connaissance de son futur beau-frère, Peter d'Amsterdam, une légende du tatouage. Et il descend dans ce shop de tatouage qui se trouve sous terre, plus bas qu'aux Pays-Bas, dira Bruno. Et il va rencontrer un monde totalement hallucinant avec des marins qui chantent, qui se font tatouer. Et ensemble, ils vont écumer toutes les bases militaires du nord de l'Europe dans un camion tatouage. Et Bruno va revenir avec ce camion place Pigalle, juste en face de la rue Germain-Pilon. Il va tatouer là pendant quelques mois. Et là, il y a le commissaire de police Jacques Delarue qui vient, qui lui demande sa patente, sa carte foraine. Bruno ne sait même pas ce que c'est. Il dit qu'il n'en a pas. Donc à partir de là, il ne peut plus exercer le métier de tatoueur. Et pendant un an, il va se battre comme ça, Bruno, pour essayer d'avoir cette autorisation de tatouer. Et Jacques Delarue a cette phrase en lui disant « Mais jeune homme, tout ce qui n'est pas interdit en France est autorisé. » Et c'est un peu la révélation. Donc il retourne à la chambre des métiers et il dit à la dame « Je veux être dessinateur intradermique. » Et la dame ne comprend rien. Elle lui met un coup de tampon sur son autorisation et donc il arrive comme ça à déjouer un petit peu les rouages du système. Il est plus tatoueur, il est dessinateur intradermique. Et il peut ouvrir la première boutique française avec une autorisation. Puisqu'à l'époque, on lui avait conseillé, à la Chambre des métiers, on lui avait dit « Mais vous ne pouvez pas être tatoueur puisque vous faites couler le sang. » Il y avait une loi anti-goutte de sang pour les faiseuses d'ange, les avorteuses. Elle lui avait dit « La seule façon que vous puissiez être tatoueur et faire couler le sang, c'est être apprenti bourreau. Il n'y a que les bourreaux en France qui ont droit de faire couler le sang. » Donc il avait dit « Mais moi, je ne veux pas être bourreau. » Il dit « À la limite, je veux bien être bourreau des cœurs. » Et donc, il a trouvé cette ruse de dessinateur intradermique et ensuite décorateur intradermique qu'il avait mis sur ses cartes. Et sa première carte, d'ailleurs, c'était Bruno de Paris. Après, c'est devenu Bruno de Pigalle. Et c'était un petit peu comme Monsieur de Paris, Anatole Desblères, qui était justement une famille de bourreaux très connue. Donc, ça rejoignait un petit peu quand même le côté bourreau et tatoueur.
Donc là, je vais changer d'aiguille. Je vais mettre mon aiguille plus fine pour les derniers petits détails.
Ok.
Hop. Comment tu te sens là? Ça va?
Ça va. J'ai moins mal qu'au début, du coup.
Oui, alors ça, c'est grâce aux endorphines. En fait, quand on se fait tatouer, le cerveau est très sympa et nous envoie des endorphines pour nous aider à supporter la douleur. C'est la même chose que quand on fait du sport, en fait. Quand on court, il y a un moment où on n'a plus mal, on ne souffre plus, ça devient même assez plaisant. Voilà. Après, dans les plus gros tatous, le stock d'endorphines peut arriver à l'épuisement. Du coup, c'est pour ça que les grandes pièces qui dépassent les 2-3 heures peuvent être assez laborieuses sur la fin. Ok, donc là, j'ai bien nettoyé. Et je vois bien ce qu'il me reste, donc les petites lignes. C'est parti. Tu es prête? C'est reparti. Donc là, je repars aussi sur le bas. Ça doit être un petit peu plus sensible sur le bas, vu qu'on est près de l'os. Près de l'articulation aussi, c'est toujours plus sensible sur ces zones. Et l'aiguille plus fine aussi peut être... c'est pas la même sensation. C'est une douleur un peu plus aiguë, je dirais. On a tendance à croire que justement ce serait plus l'aiguille est grosse, plus ça fait mal. Mais en fait, pas forcément.
Un tatouage comme celui que vous êtes en train de finaliser là sur le corps de Camille, il coûte combien?
C'était 350, c'est ça?
Pour une pièce qui fait quoi, 25 cm, je sais pas, vous diriez quoi?
Oui, je pense.
Et environ, on va dire, 7-8 cm de large?
Ça, moi, en fait, je fixe mes prix en fonction du temps que j'y passe. Donc du temps passé sur le dessin, et du temps passé sur le tatouage.
Et cette plante-là que vous êtes en train de tatouer, vous la referez sur aucun autre corps?
Aucun autre corps.
Elle sera que pour Camille?
Oui, c'est le tatouage de Camille. Par contre, certains motifs que je tatoue peuvent se retrouver imprimés sur du textile ou mes posters. Voilà, c'est le seul côté reproductible de mes motifs. C'est sur les différents supports. Mais par contre, Camille sera la seule humaine à porter ce motif.
Fusil, vous êtes intéressé à l'écriture, à la sculpture, à la peinture, à la photographie, au graphe dès la fin des années 80, et puis depuis environ 20 ans au tatouage. Comment vous avez plongé dans cet univers du tatouage ?
Effectivement, je me considère vraiment comme un artiste pluridisciplinaire du fait que j'ai structuré, disons, mon art autour du graffiti, parce que ça a été mon ouverture sur une discipline artistique, en l'apprenant sur le tas, puisque c'est quand même comme ça que ça fonctionne, avec toute la liberté que ça implique. Et moi, je suis parti du postulat que on pouvait tatouer où on voulait, comme on voulait, quand on voulait, et ce qu'on voulait. Et que toutes les règles qui étaient liées, un, à l'apprentissage, apprendre à savoir faire les lignes, à savoir à faire blablabli, le faire dans un salon et tout, j'étais là, mais pourquoi ? Pourquoi ? On est en train de parler, de s'exprimer, moi je le fais où j'ai envie de le faire, c'est-à-dire dans des endroits qui sont liés justement à ma pratique du graffiti, donc... Qu'est-ce que je faisais? Je proposais aux gens de descendre dans un tunnel, de tatouer dans un tunnel, de tatouer sur le toit d'un immeuble abandonné, de tatouer dans un train, dans un métro, de tatouer dans une galerie d'art, dans une église abandonnée, dans plein d'endroits où le contexte faisait que le moment était inoubliable et qu'on poussait parfois jusqu'à la performance. Et ça, je trouvais ça autant intéressant qu'à la fin le dessin qui serait ou l'illustration qui serait faite sur la peau.
Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète, Fusy ?
Je me réserve le droit de ne pas y répondre si elle est trop indiscrète.
Comment vous avez rencontré votre épouse ?
Ouais, l'histoire est assez croustillante, sachant qu'elle est journaliste et je faisais partie des personnes qu'elle interviewait dans le cadre d'un reportage sur des artistes graffiti. Et je lui ai proposé, puisque c'était une période où je tatouais beaucoup justement dans des endroits insolites, de lui donner rendez-vous assez tard le soir, même très tard, sur le quai du RER, à Musée d'Orsay. Donc elle est venue, à ma grande surprise, avec son petit sac à main et tout, et on est descendu dans le tunnel. Et j'ai détourné l'électricité, je lui ai fait un tatouage. Et de là, notre histoire a commencé, puisque c'était quelque part une sorte de... petit test peut-être, et de son côté elle a montré sa personnalité aussi qui était assez courageuse ou intrépide, donc voilà, ça matchait bien avec qui j'étais et peut-être qui je suis encore aujourd'hui, un peu moins, mais voilà l'histoire.
Et vous lui avez tatoué quoi ?
Oh, j'ai fait un petit tatouage, mais c'était une tête de train, comme ça, assez simplifiée, comme ça, et dessus marqué Métro Terror autour, un peu comme ces références aux films VHS des années 80, où ils avaient toujours des titres un petit peu comme ça. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi dans mes influences artistiques. Donc voilà, c'est des moments qui s'oublient pas. Bon, du fait, là, je l'ai mariée, mais même si je l'avais pas mariée, je pense qu'elle s'en serait souvenue assez longtemps.
Comment vous le perceviez à l'époque, le milieu du tatouage ?
Pour moi, la vision que j'en avais à l'époque, c'était vraiment un truc de ringard, en fait. Visuellement, je me reconnaissais dans rien de ce qu'il y avait autour de moi. Et ce qui m'intéressait, c'était quelque chose qui était lié déjà à une imagerie qui était plus celle de la rue, tous ces symboles qui sont faits souvent à l'aiguille, sans machine, et qui représentent des trucs assez symboliques, des petites phrases, des trucs contre la police, des personnes qui sont allées en prison, ou des personnes qui ont fait ça d'une manière... peut-être esthétiquement, qui parle pas à tout le monde, parce que c'est pas ce que communément on peut appeler beau, mais moi, ça me touchait beaucoup plus que ce qui était proposé dans les shops. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est reprendre ces choses-là et les interpréter. Un aigle, par exemple, la symbolique est assez simple de la force, de la liberté, et la détourner en lui mettant une casquette, des lunettes de soleil, un joint, tout de suite, on passe sur quelque chose qui est de l'ordre de l'ironie. Donc, c'est un mélange qui a tout de suite touché les gens. Et j'ai toujours des planches de tatouages avec des centaines et des centaines de tatouages, de dessins, d'illustrations, sauf que tous mes dessins sont uniques. Donc je jouais vraiment sur ça, à dire voilà, je vous présente des flash tattoos, mais chaque dessin est unique. À partir du moment où je le décroche de cette planche, je ne le reproduirai plus jamais. Et c'est peut-être la définition même de l'art, le fait d'être unique, et c'est seulement pour toi.
Quand on réfléchit un petit peu sur sa pratique, sur son métier, j'ai aucun problème avec le côté artisan. Moi, je m'étais toujours considéré comme un artisan, en essayant d'être un bon artisan. Et au final, la différenciation, peut-être, vient du fait que l'artisan répète un geste et l'améliore d'année en année. Alors qu'un artiste cherche à réinventer avec une créativité peut-être un petit peu plus... une touche peut-être un petit peu plus excentrique. Voilà, c'est ce qui fait pour moi la différence entre un artiste et un artisan.
On n'a pas le statut d'artisan et on n'a pas le statut d'artiste non plus. Le seul statut qui est réglementaire pour nous, c'est le statut d'auto-entrepreneur, avec le même code APE que les toiletteurs pour chiens, les médiums et les personnes qui gèrent les photomatons. Bon. Après, moi, je pense que je me considère comme artiste, quand je peins une fresque sur un mur, quand je décore mes objets en porcelaine. Mais quand je tatoue, je ne me considère pas comme artiste. Pour moi, ce n'est pas des œuvres d'art. Une œuvre d'art, elle peut se vendre, elle peut s'exposer dans un musée, dans une galerie. Pour moi, un tatouage, vu que c'est sur un support qui est vivant, un humain, ça ne peut pas avoir ce statut-là. Ou alors, ça voudrait dire quoi? Que je peux signer mes tatouages? Pour moi, non. À partir du moment où mon dessin est tatoué sur la personne, il ne m'appartient plus. Il appartient à la personne parce qu'il est tatoué sur son bras, sur son corps, sa peau. Et justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se doit d'être humble.
Mais en même temps, vos clients et clientes qui quittent votre atelier, parce que vous appelez pas ça un shop, vous dites c'est un atelier ici, ils partent avec un bout de vous, quand même, un bout de vous, artiste, sur leur corps.
Ouais, mais c'est à elles et eux d'en faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent le considérer comme une œuvre d'art, ce tatouage, très bien. Mais c'est eux qui le décident. Parce que justement, sur ce concept d'œuvre d'art, ça peut être la porte ouverte à tous les abus de pouvoir, qu'il y a beaucoup aussi dans ce milieu, malheureusement.
La question, pour autant, elle n'est pas fermée, puisque si, du point de vue du fisc, les tatoueurs ne sont pas des artistes, du point de vue du code de la propriété intellectuelle, les tatouages peuvent bel et bien être reconnus comme des œuvres de l'esprit.
Valérie Roll, sociologue à Nantes Université.
Et donc, les tatoueurs et les tatoueuses peuvent parfaitement revendiquer un droit d'auteur sur les tatouages qu'ils ont produits. La grosse difficulté qui se pose bien évidemment à elles et à eux, c'est qu'une fois qu'ils ont produit ou réalisé le tatouage sous la peau de leur client, qu'ils publicisent l'image ou que le client circule dans l'espace social ou publicise une photo de son propre tatouage, l'image échappe aux tatoueurs et aux tatoueuses et donc ils ont de grosses difficultés à faire reconnaître le fait qu'ils seraient l'auteur d'un tatouage qui aurait été repris ou dont quelqu'un d'autre se serait inspiré pour tatouer. Alors une autre question se pose bien évidemment sur la question de est-ce que le tatouage est une forme d'art, c'est que pour qu'une pratique soit reconnue comme artistique, faut-il encore qu'elle soit labellisée comme telle par les institutions qui sont légitimes à le faire. Ce qu'on appelle souvent chez les sociologues les gardiens de l'art, donc les conservateurs de musées, les galeristes, etc. Et donc là, c'est toute une question, évidemment, qui se pose aussi, c'est les conditions de circulation de tatouages dans la sphère muséale, culturelle ou artistique, et de son étiquetage ou de sa labellisation en tant que telle. Et ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, avec cette entrée aujourd'hui probablement très massive de tatoueurs et de tatoueuses qui sont diplômés d'écoles d'art, c'est est-ce que ça va changer ou jouer un rôle facilitateur dans la circulation et dans la reconnaissance de la pratique au sein des institutions culturelles établies.
Faites voir.
Que je ne vous permets pas, monsieur, qu'est-ce que c'est que ce genre?
Qu'est-ce qu'il a dans le dos?
Un tatouage.
On dirait une reproduction d'un Modigliani.
Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction?
Non, mais faites voir. Mais faites voir!
Oh, mais arrière, jeune homme!
Vous n'allez pas me dire.
Mais j'ai rien à vous dire, monsieur.
Je vous l'achète. Je vous donne 2 millions pour ce que vous avez dans le dos.
Est-ce que vous me prenez pour une prostituée, bougre l'abruti?
Est-ce que, à l'instar du personnage incarné par Jean Gabin dans Le Tatoué, avec Louis de Funès qui a un Modigliani dans le dos, est-ce qu'on peut imaginer que des gens tatoués, tout d'un coup, s'érigent en œuvres d'art vivantes et vendent leur peau? Je crois qu'il y a eu des exemples.
Alors oui, un exemple, alors c'est l'œuvre Tim de Wim Delvoye, qui est un artiste plasticien belge, qui avait ouvert ce qu'il a appelé Art Farm. C'était une ferme où il tatouait des porcelets vivants qui étaient ensuite observés par leurs acheteurs à travers des caméras. Les porcelets vivaient leur vie jusqu'à ce qu'ils meurent, qu'ils soient dépecés, tannés et rendus aux collectionneurs qui avaient acheté leur couenne tatouée. Donc ça se passe en 2003. Puis en 2008, Wim Delvoye, il franchit un pas de plus puisqu'il fait tatouer par Matt Lindsay, donc un tatoueur anglais qui officiait à l'époque à Zurich, un dos sur un musicien qui est suisse, qui s'appelle Tim Steiner, qui était parfaitement consentant, en vue de le vendre sur le marché de l'art contemporain. Sauf que les corps sont inaliénables. Comment on fait pour vendre le dos d'un homme? Donc Wim Delvoye a mis une stratégie assez diabolique qui a consisté à court-circuiter les marchands d'art, les galeries, etc. Il est passé par des avocats et notamment par le droit suisse pour pouvoir vendre le dos de Tim à un collectionneur allemand pour un montant de 150 000 euros. Et ça a été possible dans le cadre de la vente de son dos grâce au droit suisse qui autorise la prostitution comme un service de nature corporelle et qui, tant que Tim Steiner y consent, il peut continuer à aller s'exposer dans des musées.
Et donc, il est rémunéré à chaque fois qu'il expose son dos?
Oui, mais il y va généralement avec un casque de musique sur les oreilles parce que son dos tatoué fait l'objet de critiques très acerbes. Et c'est précisément aussi l'intérêt, ce qui était recherché par Wim Delvoye, qui prétendait absolument pas devenir tatoueur. Mais ce qui l'intéressait, c'était de contester les frontières de l'art.
Dernière petite ligne. Hop. Et c'est fini. Ah non, j'ai menti. Il reste les trois petites feuilles qui sont en haut de la tige et qui sont remplies.
D'accord.
Donc c'est des toutes petites zones à remplir. Donc je reprends mon aiguille du début.
C'était Tatouage, des mondes sur la peau, épisode 1. Art ou artisanat.
Une feuille.
Un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par David Jacuboviez. Avec Mickaël de Poissy, Léa Le Faucon, Camille, la marquise de Salem, Fusy et Valérie Roll.
Voilà. Là, c'est bon. C'est fini.
Et un extrait du film Le Tatoué de Denis de la Patelière.
Donc là, on nettoie bien, surtout pour bien vérifier que tout y est. Que toutes les lignes sont...
Lecture, Florent Baffy.
Égale, harmonieuse, nette.
Documentation, Annelise Signoret. Prise de son, Maëlle Larfassor et Manon Houssin. Mixage, Dophar Guéry.
Tu vas pouvoir se relever et le regarder dans le miroir si tu le souhaites.
Chargée de programme, Anaïs Morales, Marie-Yvonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurent.
Ça me met en joie. C'est très beau.
À suivre, épisode 2.
Ah oui, c'est magnifique.
De l'infamie à la revendication.
Bravo.
Merci.